Bonsoir. 6 morts, dont un prêtre dans l'attaque d'une église au Burkina Faso, 2 semaines après l'attaque d'une église protestante, 2 jours après la libération de 4 otages par les forces spéciales françaises. L'attentat qui n'a pas été revendiqué est bien sûr attribué aux djihadistes qui multiplient les actions dans ce pays parmi les plus pauvres du monde. S'agissant des ex-otages français enlevés au Bénin, la polémique se poursuit sur leur insouciance supposée. Pas si simple pour les professionnels du tourisme, les cartes de vigilance étant en constante évolution. Arrêté en mars, libéré ce week-end, le beau-frère de l'ex-dictateur tunisien Ben Ali a quitté la prison des Baumettes à Marseille. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant une possible extradition vers la Tunisie. Dans ce journal également, les excuses du groupe Bayer qui regrette le fichage des personnalités établies par sa filiale Monsanto et d'y comprendre les critiques qu'il a suscitées. Les anti-indépendantistes qui gardent la majorité au Congrès de Nouvelle-Calédonie, mais de très peu. Un taureau qui fonce dans la foule à la feria de Vergès, dans le Gard, 6 blessés, dont 2 gendarmes. En sport, match nul, 1-1 dans le derby breton de Ligue 1 à Rennes. Insuffisant pour Guingamp, qui rétrograde en Ligue 2. Tout va bien en revanche pour Lille, qui bat Bordeaux 1-0 et sécurise sa 2e place. Ce soir, le match des Olympiques OM-OL. Un club breton en route vers le top 14. Le RC Van a dominé les Landais de Mont-de-Marsan 50-10 en match de barrage. Il jouera la demi-finale face à Brive. Les Messines n'iront pas en finale de la Ligue des champions de handball, battue hier par les Russes de Rostov. Arnaud démarre 5e de la première étape du Giro, le journal des sports, dans un instant avec Fabrice Rigobert et puis la météo, des températures qui remontent, le soleil qui revient demain sur 90% du territoire.
France Inter.
2 jours après la libération de 4 otages par les forces spéciales françaises, le Burkina Faso est donc frappé par un nouvel attentat. Le 2e en 2 mois contre une église. 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées ce matin pendant la messe à Dablo, dans le nord du pays, par un commando armé qui a ensuite incendié l'église d'où les fidèles s'étaient enfuis. Fanny Noireau à Ouagadougou.
La précédente attaque remonte à il y a 2 semaines tout juste, mais c'était une église protestante qui avait été visée, avec un bilan de 4 personnes tuées, le pasteur et ses fidèles. Ce n'est donc pas une première, certes, mais c'est tout de même inédit au Burkina Faso, un pays normalement cité en modèle pour sa coexistence religieuse. Ici, à chaque fête, à chaque rassemblement religieux, comme Noël ou l'Aïd, eh bien les représentants des autres religions sont également présents. Les mariages, qu'on appelle ici mixtes, sont monnaie courante. Et même si le pays fait face à une situation sécuritaire très difficile ces dernières années, jusqu'ici, ce modèle tient et les Burkinabés y veillent. Depuis ce matin, sur les réseaux sociaux, on peut lire de nombreux appels à l'unité, avec des messages comme « Non, ils ne nous diviseront pas ». À Ouagadougou, Fanny Noireau, France Inter.
Depuis 4 ans, les attaques terroristes se multiplient dans ce pays. Parmi les plus pauvres du monde, elles ont fait plus de 400 morts dans les communautés chrétiennes principalement, mais aussi musulmanes. Des prêtres, des pasteurs et des imams sont en priorité ciblés. C'est donc au Burkina Faso qu'avaient été emmenés les 4 otages, dont 2 Français libérés par les forces spéciales. On connaît la suite. La mort des 2 soldats d'élite, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, auxquels un hommage national sera rendu mardi matin aux Invalides. Hommage présidé par Emmanuel Macron, qui est allé accueillir les otages hier à Villacoublay, ce qui lui vaut des critiques, notamment du Rassemblement National. Il n'aurait pas dû y aller, explique encore aujourd'hui Marine Le Pen, pour qui l'intégralité des hommages aurait dû être réservée aux 2 militaires. Hier, les 2 touristes français ont dit regretter n'avoir pas pris en compte les recommandations du ministère et la complexité de l'Afrique. Ce dimanche, le directeur du Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, Éric Chevalier, qui était allé les chercher après leur libération, confirme que leur lodge était bien situé en zone orange et donc en zone déconseillée, sauf raison impérative. Pas si simple pour Didier Arino, directeur général de l'agence ProTourisme, qui l'a dit à Bernard Thomasson sur France Info, le risque zéro n'existe pas.
Si on veut appliquer le principe de précaution, il faudra aller nulle part en Afrique, pour faire simple. Dans le cas de nos 2 otages, la vigilance de cette zone a évolué, puisque le parc national était un parc touristique pendant de nombreuses années. Cette zone est devenue une zone à fort risque mais les voyageurs ne le savaient pas forcément. C'est un petit peu difficile là de leur faire porter la responsabilité de la mort de nos deux soldats héroïques, sachant que ils avaient pris un guide. Bien évidemment, ils regrettent d'être allés dans cette zone. Le risque zéro n'existe pas. Imaginez-vous aller reprocher à une agence de voyage américaine d'avoir envoyé des touristes en France au moment où il y a eu les attentats. Il y a le Sri Lanka. Le Sri Lanka était une zone réputée sûre et pourtant on n'est pas à l'abri de terroristes. Donc pour faire simple et de façon à clarifier les choses, l'ensemble de l'Afrique est une zone à risque pour les citoyens occidentaux. C'est une réalité.
Voilà un point de vue que confirme Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, qui explique que l'appréciation du risque est subtile et qu'elle varie effectivement dans le temps. La libération de Belassem Trabelsi, le beau-frère de l'ex-dictateur tunisien Ben Ali, incarcéré en France, notamment pour blanchiment en bande organisée, a été libéré à la deuxième demande de ses avocats, mais il reste soumis à contrôle judiciaire. Il ne peut pas quitter le territoire français. Le frère de l'ex-première dame tunisienne s'était réfugié au Canada au lendemain de la révolution de janvier 2011, avant de s'enfuir en mai 2016 et d'être finalement arrêté en France à la mi-mars dernier. La justice française doit maintenant examiner la demande d'extradition formulée par la Tunisie. Maureen Mercier à Tunis.
Belhassen Trabelsi, 56 ans, quitte la prison dans laquelle il séjournait depuis deux mois. Il a dû verser une caution de 100 000 euros et devra pointer régulièrement au commissariat. La demande d'extradition formulée par la Tunisie doit maintenant être examinée. Belhassen Trabelsi, c'est le symbole des méthodes qui régnaient du temps de Ben Ali et de sa belle famille, qui avait fait main basse sur des pans entiers de l'économie du pays. Le symbole de cette corruption qui a entraîné tout un peuple à faire la révolution. Immobilier, commerce, aviation, tourisme, il gérait ses affaires sans se soucier des lois. Quelques heures avant la chute du régime, c'est sur son yacht, avec toute sa famille, qu'il fuit le pays. Une image qui restera gravée dans les mémoires. Le parrain s'est installé au Canada avant de disparaître dans la nature puis de refaire surface quelques années plus tard, ce printemps, dans le sud de la France. Belhassen Trabelsi a déjà été condamné par contumace en Tunisie à de lourdes peines. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Au Yémen, peut-être le début d'un commencement de processus de paix. Il faut rester prudent, mais la première journée du redéploiement des rebelles houthis, du point de vue de l'ONU, s'est déroulée conformément aux plans établis. Au terme de cet accord conclu en décembre dernier, les trois ports de la région d'Hodeïda, à l'ouest du pays, doivent être évacués par les forces militaires de façon à laisser passer l'aide humanitaire. Ce désengagement des rebelles, mis en doute par les autorités yéménites, devra bien sûr être vérifié et confirmé. Et maintenant, des excuses en Allemagne. Le groupe Bayer, qui dans un premier temps avait contesté les accusations de fichage qui visaient sa filiale Monsanto, reconnaît aujourd'hui les faits. L'existence d'un fichier d'élus et de journalistes classés selon leur position sur les OGM ou le glyphosate. Un fichier dont le groupe allemand dit comprendre qu'il ait suscité des inquiétudes et des critiques. David Philippot à Berlin.
C'est donc le deuxième communiqué en 24 heures, preuve d'une certaine fébrilité du groupe basé à Leverkusen dans la Ruhr. Bayer fait son mea culpa. Pas le groupe allemand qui avait refusé jusqu'ici de se prononcer sur le fond esquisse dans le même temps sa ligne de défense. Il affirme ne pas voir pour le moment d'éléments montrant que les listes établies pour le compte de Monsanto ont enfreint la loi, mais par prudence, le leader mondial de l'agrochimie veut charger un cabinet d'avocats d'étudier le dossier et Bayer, qui a déjà nié avoir eu connaissance de l'existence de ce fichier, se dit prêt à coopérer avec les autorités judiciaires. Il s'agit donc de circonscrire l'incendie avant la réouverture de la bourse de Francfort. L'action Bayer a déjà perdu 40% de sa valeur depuis le rachat extrêmement contesté de l'américain Monsanto, une acquisition qui l'a embourbé dans le scandale du glyphosate et la vague de procès qui menace aux États-Unis. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Après une plainte déposée par le journal Le Monde qui a révélé l'affaire, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. Radio France, France Télévisions et Europe Écologie Les Verts ont annoncé également leur intention de porter plainte. À ce sujet, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, se dit ce soir ravi d'avoir été classé parmi les détracteurs dans ce fichier de Monsanto. Face à ceux qui me traitaient comme le ministre des pesticides, dit-il, que Monsanto me mette dans la liste des ennemis de l'entreprise, ça me rassure plutôt.
Le journal de 19h sur France Inter.
En Belgique, le changement climatique et la justice sociale. Ils étaient encore plusieurs milliers de personnes ce dimanche dans les rues de Bruxelles pour rappeler les autorités à l'urgence d'agir. À 2 semaines des élections générales du 26 mai, le même jour que les européennes, et même si la mobilisation faiblit, les marcheurs assurent qu'ils reviendront tant qu'un changement de cap ne sera pas opéré. Lakshmi Lotha à Bruxelles.
Les slogans ne changent pas, plus chaud que le climat. Mais dans la manifestation, on entend aussi ceux des syndicalistes.
Tous ensemble, tous ensemble.
Fin du monde et fin de mois ne s'opposent pas ici.
C'est le moment de la convergence des luttes, oui.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien qu'on se dispute. Et ce qui est gay, c'est que maintenant, on voit que les gens communiquent entre eux. Et donc, il n'y a plus cette dispute entre les écolos d'un côté, les gens qui veulent terminer la fin du mois derrière.
L'exploitation de la nature, n'importe comment, à n'importe quel prix, pour rentabiliser n'importe quoi, fait que les plus pauvres sont les premières victimes. Et même, ça fabrique des pauvres.
Côte à côte, des personnes âgées, des infirmières, des jeunes.
En 1968, on se battait pour nous. Maintenant, on se bat pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous, les vieux d'aujourd'hui, on se bat pour l'avenir des vieux de demain.
En Belgique, c'est très porté par les jeunes. C'est vraiment les jeunes, comme vous l'entendez, qui prennent tout en main ici, quoi.
Il y aura encore 2 marches pour le climat avant les élections fédérales, régionales et européennes en Belgique. Bruxelles, Lakshmi Lotha, France Inter.
Et pendant ce temps, à Paris, des membres du mouvement Extinction Rébellion sont venus déverser du faux sang sur les marches du Trocadéro pour alerter cette fois contre le déclin accéléré de la biodiversité. En politique, les extraits choisis de ce dimanche, François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains sur France Inter, dénonce le faux débat entre populistes et progressistes. Ce faux débat que voudrait imposer Emmanuel Macron et qui est un faux clivage, dit-il, dans lequel 80% des Français ne se retrouvent pas. Et puis Benoît Hamon, tête de liste de Génération, accuse Emmanuel Macron de céder aux nationalistes sur les questions des migrations et des libertés. Quelle est la différence, demande Benoît Hamon, entre Salvini qui ferme le port de Gênes au navire humanitaire Aquarius et Macron qui ferme le port de Marseille au même bateau ? Pendant ce temps, le Rassemblement National fera-t-il l'objet d'une commission d'enquête parlementaire ? C'est ce que demandent plusieurs députés et sénateurs de différents horizons, élus de La République En Marche, du PS ou de l'UDI. Ils s'inquiètent des liens révélés par un reportage d'Envoyé spécial sur France 2 entre certains dirigeants du Rassemblement National, dont Louis Alliot, et l'ancien stratège de Donald Trump, Steve Bannon, auquel il a été proposé de rencontrer secrètement des hauts fonctionnaires français. Les parlementaires qui n'hésite pas à parler de conjuration internationale contre les intérêts de la France, confirme vouloir répondre à l'appel de l'ancien député et ministre sarkozyste Frédéric Lefebvre, qui le premier leur avait suggéré des commissions, cette commission d'enquête. Il a dit pourquoi à Béatrice Duguay.
Vous avez très clairement, dans une réunion présentée comme secrète, un citoyen étranger, en l'occurrence un citoyen américain, qui est en réunion avec des émissaires du Rassemblement National, dont le compagnon de Madame Le Pen. Et lors de cette réunion, il est proposé à ce citoyen étranger de participer à des réunions secrètes autour de Madame Le Pen, avec des hauts fonctionnaires français, des ambassadeurs, des préfets et des gens proches du gouvernement, qui sont donc évidemment tenus à un devoir de réserve, dont on dit qu'on préserve l'anonymat. Et donc ça pose évidemment la question de l'intelligence avec une puissance étrangère, puisque M. Bannon, en l'occurrence, ne cache pas son objectif de détruire l'Europe. Il emploie même des termes d'une violence inouïe, puisqu'il parle de planter un pieu dans le cœur de l'Europe.
Voilà, l'ancien ministre Sarkozy, Frédéric Lefebvre. En réplique, le Rassemblement National annonce son intention de porter plainte pour diffamation. Marine Le Pen dénonce une pauvre petite manœuvre politicienne d'un mouvement, La République En Marche, qui, dit-elle, est en train de perdre la première place dans les sondages. Encore raté, mais de peu pour les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Il s'en sera fallu de 2 sièges à l'issue des élections provinciales ce dimanche. 6 mois après le rejet de l'indépendance par référendum, les partisans du maintien de l'archipel dans la France ont conservé la majorité du Congrès, à charge pour eux maintenant de négocier avec Paris le futur statut du territoire. Un taureau qui fonce dans la foule à Vergès, dans le Gard, pendant la feria. L'animal qui venait d'entrer dans le corral a réussi à ressortir, faisant plusieurs blessés, dont deux gendarmes. Les gendarmes qui se trouvaient à proximité pour encadrer une manifestation anti-corrida ont pu très vite abattre le taureau. Le maire René Banala raconte.
C'est la panique totale parce qu'un taureau de corrida de 430 kilos, bon ben c'est quand même, ça fait toujours impression. Il a réussi à refranchir une porte et à se trouver dehors. Ça n'est plus à des personnes isolées. On a une énorme chance parce que s'il était rentré dans les tables où étaient les gens, là ça pouvait être alors hyper hyper grave. Je dirais même qu'on était tous sidérés. Un taureau de corrida qui se retrouve à l'extérieur, voilà, au milieu de la foule. Là. Donc, vraiment, ça pouvait être vraiment très dramatique.
Le maire de Vergès, interrogé par France Bleu, Gare Lozère. Dans l'Hérault, le responsable d'un accident mortel, conducteur d'une voiturette, placé aujourd'hui en détention provisoire. Le trentenaire originaire de Béziers était au volant d'une voiturette de deux places dans laquelle cinq personnes avaient pris place. La voiture sans permis a terminé sa course dans un fossé, tuant dans l'accident une femme de 30 ans. Présenté ce matin au juge des libertés, le conducteur a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et placé en détention provisoire pour une durée de 4 mois renouvelables, ce qui nous amène au point route.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stage de révision et cahier de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
Assez calme ce soir, Adèle Bossard, avec un ralentissement malgré tout en région parisienne.
Oui, c'est toujours très chargé sur l'A13 depuis la Normandie, avec une quinzaine de kilomètres de bouchons à hauteur du péage de Mantes-la-Ville. Et au sud de la capitale, vous mettez également une quarantaine de minutes pour faire 7 kilomètres de Fresnes jusqu'à l'entrée sur le périphérique. Deux accidents signalés également sur l'A11 au nord d'Angers en direction de Nantes et dans l'autre sens vers Angers à hauteur d'Ancenis. À chaque fois, l'une des voies de circulation est fermée. On a une collision également à Marseille sur l'A507 dans le sens nord-sud. L'une des quatre voies de circulation est fermée. Et puis attention, au nord de Valence, la Nationale 7 est coupée après un gros accident dans le sens nord-sud.
Adèle Bossard au PC Mobilité de Radio France Le Temps.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, le vent va souffler moins fort en Méditerranée, vers 80 km à l'heure, mais sur le reste du pays, il deviendra sensible de secteur nord-est, par conséquent désagréable et donnant un ressenti de fraîcheur malgré des températures l'après-midi de 16 à 18 degrés sous abri dans la moitié nord, de 21 à 24 sur les régions méridionales. Notez qu'en ce dernier jour, des seins de glace, en fin de nuit, les valeurs seront parfois proches de la gelée blanche en campagne sur les régions de la moitié nord. Demain, le soleil va largement s'imposer sur 90% du territoire dans une ambiance limpide. Seule la Corse verra passer des nuages capables de lâcher des averses. De mardi à jeudi, maintien d'un ciel bien dégagé sur la plus grande partie du pays, mais avec à nouveau un vent de secteur nord-est très sensible.
19h17, le sport. La course à l'Europe, la Bretagne, du rugby, le charme du Tour d'Italie et l'ivresse des sommets. Le journal des sports, c'est avec vous Fabrice Rigobert, bonsoir.
Bonsoir.
Et on commence par le football.
De la lutte pour le maintien à la Ligue des Champions à 2 journées de la fin du championnat de France de football de Ligue 1. Lille a définitivement validé sa présence la saison prochaine dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Fabrice.
Et les joueurs de Christophe Galtier ont communié il y a quelques instants avec le public pour célébrer ce succès face à leurs adversaires de Bordeaux ce soir.
Ah oui, ils ont fêté ça longuement avec le public, les joueurs de Christophe Galtier qui s'est même permis de se mettre à genoux sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy après le coup de sifflet final et la victoire des Lillois cet après-midi face aux Bordelais sur le score de 1-0. Lille qui effectivement sécurise cette deuxième place du classement parce que même si Lyon gagne ce soir, il y aura toujours 6 points d'avance pour le LOSC et un goal average très nettement à l'avantage des nordistes. 17 buts d'avance pour Lille qui ne sera donc plus rejoint à la deuxième place du classement. Vous le disiez, Lille qui a frôlé la relégation la saison dernière, qui s'était sauvée le 17 mai 2018 à l'avant-dernière journée de championnat et qui se retrouve quasiment un an plus tard qualifié directement pour la Ligue des Champions. Lille qui n'a plus joué en Ligue des Champions depuis 6 ans et qui va donc regoûter à la plus prestigieuse des Coupes d'Europe la saison prochaine.
Cédric Guillou en direct de Lille.
Et ce soir dans cette lutte pour l'Europe, l'OM accueille Lyon.
Les Lyonnais sont 3e du classement avec sur leur talon les Verts de Saint-Etienne. Les Marseillais sont 6e à 8 points et tentent de gérer la fin d'une saison ratée, très loin des ambitions initiales. Les enjeux ne sont donc pas les mêmes pour les deux formations. Cette confrontation Marseille-Lyon est tout de même la promesse d'une rencontre électrique. Tony Cellier se souvient encore du match de l'année passée.
Dernière minute au Vélodrome l'an dernier, Memphis Depay donne la victoire à Lyon, 3 buts à 2. À la sortie du tunnel, sa chambre et très vite un début de bagarre générale, notamment entre Adil Rami et Marcelo. Quelques minutes plus tard, Florian Thauvin promet une revanche.
Il y a des joueurs de Lyon qui se sont permis de nous chambrer. C'est pas professionnel de leur part. Quand un joueur se permet de retirer son maillot, de le montrer à nos supporters, il n'a pas à faire ça. Il ne faut pas se comporter comme ça et ils le paieront.
Un an après, la donne a changé. C'est Lyon qui est en position de force au classement. Et le Brésilien, Luis Gustavo, l'assure. Partir dans l'idée de prendre une revanche, c'est certainement la pire des préparations.
C'est pas le meilleur sentiment que tu as besoin pour jouer un match comme ça. Je pense qu'ils ont besoin de jouer avec la tête aussi. C'est un match vraiment à une grande rivalité. Je pense que la concentration peut faire la différence.
Son entraîneur, Rudy Garcia.
Ça va être un match d'homme parce qu'on veut être à la hauteur de ça. On sera ultra motivé, ça c'est sûr, mais il faut aussi garder la tête froide. C'est important aussi.
Cette sérénité qui justement a fui l'OM presque toute la saison, autant dire qu'une victoire contre Lyon laisserait autant d'espoir que de regrets aux Marseillais.
Et coup d'envoi de ce Marseille-Lyon à 21h tout à l'heure.
En Ligue 2, c'est fini pour Guingamp.
Oui, Guingamp retrouve la Ligue 2. Les Bretons avaient besoin d'un succès pour éviter cette relégation mathématique sur la pelouse du Stade Rennais, dernier vainqueur de la Coupe de France. La Lanterne Rouge n'a pu faire mieux qu'un match nul un partout cet après-midi, ratant même un pénalty dans les dernières minutes. Une intense déception, une opération sauvetage avortée pour le technicien guingampais Jocelyn Gourvennec, rappelé au chevet de son club l'automne dernier.
Quand j'ai accepté le challenge au mois de novembre, je savais qu'il y avait une possibilité que ça se finisse pas bien. Je pense qu'on a bien amélioré les choses. L'équipe a beaucoup plus de tenue aujourd'hui. On a eu trop de difficultés à finir nos actions, à être efficace cette saison pour mieux espérer. Et j'ai trouvé, quand je suis arrivé, des joueurs en détresse psychologique, vraiment. Et le gros du travail, il a été là-dessus, de soigner les têtes, de redonner confiance à tout le monde. Ça a été fait en partie. Pas suffisamment parce que dans la finition, il y a toujours un petit sentiment de frein à main. On a un club bien structuré, qui a un public de malades, qui a des infrastructures et on a tout ce qu'il faut pour repartir au combat, bien entendu.
La Ligue 2 pour Guingamp et un nouveau sacre de l'autre côté de la Manche pour Manchester City. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Manchester City a conservé son titre de champion d'Angleterre après son succès aujourd'hui, 4 buts à 1 sur Brighton à l'occasion de la dernière journée.
Oui, deuxième titre en deux ans, 198 points, 32 victoires au total. En fait, après une première moitié de saison en demi-teinte, l'équipe de Pep Guardiola a survolé la deuxième partie du championnat. Dans la foule, Noel Gallagher, le chanteur d'Oasis, reprend avec les supporters la version footballistique de Wonderwall. Ovation pour Vincent Kompany, c'est le quatrième titre du capitaine belge. Applaudissements aussi pour Aymeric Laporte, le défenseur français, Raheem Sterling, Aguero qui totalise 30 buts en 45 matchs, Fernandinho, Bernardo Silva, euphorie totale donc après cette dernière victoire, 4 buts à 1 face à Brighton. Au classement final, Manchester City termine donc premier, juste devant Liverpool qui compte pourtant dans ses effectifs deux des meilleurs buteurs du championnat, Mané et Salah à égalité avec Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, les joueurs de Manchester City vont avoir une dernière occasion de briller. Ils disputent la finale de la Coupe d'Angleterre samedi prochain contre Watford.
Pour peut-être un triplé domestique inédit et on retrouvera bien sûr Liverpool et Tottenham en finale de la Ligue des Champions.
Du hand maintenant Fabrice avec une finale sans équipe française.
La finale de la Ligue des Champions de handball à Budapest en Hongrie oppose les Russes de Rostov aux Hongroises de Győr. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Fabrice.
La France tout de même représentée par une certaine Amandine Leno côté hongrois.
Et exactement, la gardienne des Bleus, le dernier rempart de l'équipe de France championne du monde et championne d'Europe, vice-championne olympique Amandine Leno à 33 ans. Et ben elle est sur le point, allez, je m'avance un peu, elle est sur le point de remporter sa première Ligue des Champions en carrière. La dernière fois qu'une Française a remporté la Ligue des Champions, c'était une certaine Raphaël Tervel qui représentait la génération 2003 des championnes du monde avec Valérie Nicolas notamment. C'était déjà avec Dior à l'époque en 2014 qu'elle avait remporté cette Ligue des champions. Et là, Amandine Lénaud est sur le point de la remporter, je vous le dis, parce que les Hongroises de Győr, à 7 minutes de la fin du match, mènent 25-21 de 4 buts. Donc c'est assez serré, mais ça devrait le faire pour les Hongroises. Le géant hongrois de Győr soutenu par toute une salle, et donc Amandine Lénaud dans les cages.
Les Russes de Rostov ont dominé hier les joueuses de Metz pour accéder à cette finale. Les Russes qui vont donc perdre. Metz qui a terminé cet après-midi à la 4e place de ce Final Four après une nouvelle défaite d'un petit but, 31-30 contre les Norvégiennes de Kristianstad. D'où la déception de la capitaine de Metz, Grace Zahedi.
Une grosse déception parce que j'aurais aimé qu'on gagne au moins un match ce week-end. J'aurais aimé qu'on en gagne un. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On n'a pas su relever la tête du match d'hier et j'en suis vraiment désolée parce que j'aurais vraiment aimé qu'on finisse à cette 3e place. J'espère qu'on reviendra l'année prochaine et qu'on frappe une meilleure position que celle qu'on vient de faire. Là, c'est difficile de le dire, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir.
La finale du Masters 1000 de tennis de Madrid oppose en ce moment Novak Djokovic au grec Tsitsipas, tombeur hier de Rafael Nadal. Pour l'instant, 1-7-0, 6-3 pour Novak Djokovic. À Rome, les Français Lucas Pouille et Gilles Simon ont de leur côté été éliminés dès le premier tour aujourd'hui, tournoi auquel participera cette semaine Roger Federer. L'équipe de France féminine a remporté le relais 4 fois 200 mètres des championnats du monde de relais à Yokohama au Japon, devant la Jamaïque. Une belle performance des Françaises sur cette distance qui n'est malheureusement pas inscrite au programme olympique ni à celui des prochains championnats du monde. Pas de quoi faire oublier l'échec du 4 x 100 féminin où les tricolores ont laissé tomber un bâton dans la dernière ligne droite. Elles ne sont donc pas qualifiées pour les prochains mondiaux. Qualification en revanche des Français sur ce 4 x 100 avec une 5e place avec un certain Jimmy Vico.
Du rugby maintenant et des Bretons aux portes du top 14, incroyable.
Des portes qui se rapprochent en effet pour Vannes. Les Bretons ont dominé aujourd'hui en demi-finale de barrage d'accession Mont-de-Marsan 50-10. Et la semaine prochaine, le RC Vannes ira défier Brive en demi-finale.
C'est pas gagné.
C'est un exploit hein, tout de même pour le club du Morbihan qui a accédé au monde pro il y a seulement 3 ans. Vannes 4e de la saison régulière. Et maintenant parmi les 4 qualifiés en play-off, Anthony Boutier, l'arrière du RC Vannes, vit un rêve éveillé et rend hommage à ses coéquipiers.
Déjà, on réalisait pas trop cette semaine qu'on était en quart de finale de Pro D2. Et puis là, à la mi-temps, on s'est dit, on est à 40 minutes d'une demi-finale de Pro D2. Et quand c'est vrai que quand on sort ses mots, ça pèse. C'est assez incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et c'est une saison juste incroyable qu'on vit cette année. Il y a eu du turnover, on était 40-45 à jouer toute l'année. Et voilà, c'est vraiment tout un groupe qui a œuvré cette année pour en arriver là. Et si on est autant en forme là aujourd'hui, c'est grâce à ça.
Et rendez-vous la semaine prochaine pour la demi-finale contre Brive. L'autre demi opposera Oyonnax et Bayonne. Une deuxième défaite pour l'équipe de France de hockey sur glace au championnat du monde en Slovaquie. Les Français se sont inclinés 7-1 face aux stars américaines de la NHL.
Une victoire allemande sur le Tour d'Italie.
Pour Pascal Ackermann, qui a dominé la première étape en ligne au sprint à Fucecchio en Toscane, devant l'Italien Viviani et l'Australien Caleb Ewan. Cinquième place pour le Français Arnaud Démare. Pas de changement au classement général. Le Slovène Primoz Roglic, vainqueur du contre-la-montre inaugural de 8 km hier à Bologne, reste en rose. Le Tour d'Italie, premier des 3 grands tours de la saison cycliste, le Giro, titre d'un livre écrit par notre confrère Pierre Carré. Un livre à la couverture rose, de la couleur du maillot de leader. Un grand tour devenu légendaire avec ses petites et grandes histoires racontées par Pierre Carré.
Le public des passionnés de cyclisme s'intéresse de plus en plus à ce cousin du Tour de France, qui n'est plus un sous-Tour de France, mais vraiment une épreuve de 3 semaines à part entière, avec ses charmes, son histoire vieille de plus d'un siècle, et qui oscille entre la liturgie, le folklore, des histoires tragiques, bien sûr, Fausto Coppi, entre autres, Marco Pantani, et puis des histoires très drôles. Par exemple, on avait inventé à une époque un maillot noir. Alors le maillot noir, c'était le pendant du maillot rose qui est destiné au leader du classement général. Le maillot noir allait sur les épaules du dernier du classement. Et pour remporter ce maillot, les coureurs qui se battaient pour la dernière place devaient freiner, se cacher parfois. Il y en a un qui s'était caché, qui s'appelait Malabroca, et s'était caché dans la cuve en béton qui était le réservoir d'un paysan. Il avait laissé le peloton passer. Et comme ça, les coureurs qui lui disputaient la dernière place pensaient qu'il était devant. Et le paysan ouvre le couvercle et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il dit « Bah, j'essaie de gagner le maillot noir. »
Tout le parfum de l'Italie dans ce livre, Giro aux éditions Hugo Sport.
Allez. Allez, on termine avec une première mondiale sur les pentes de l'Himalaya.
Accrochez-vous bien, Maxime Buffet, jeune skieur français, va tenter une première mondiale. Cet adepte du freeride va essayer, à partir de mercredi, de gravir deux sommets de 6000 mètres qu'il va ensuite descendre à ski. Personne ne l'a fait pour l'instant, peut-être avant lui, Jérôme Val.
Il faut imaginer le paysage de ces sommets qu'une poignée d'hommes seulement ont gravi. Des pentes extrêmes, une météo glaciaire, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés en cette période. Un tableau qui n'effraie pas Maxime Buffet.
C'est assez similaire aux montagnes qu'on a chez nous, au massif des Écrins, sur des pentes qui vont jusqu'à 50 degrés, mais avec la difficulté en plus d'être à une altitude qu'on a très rarement franchie.
Cela fait des années que ce jeune freerider de 28 ans écume les massifs européens. Le freeride, c'est cette discipline spectaculaire qui consiste à faire des figures sur un parcours non balisé, mais là ce ne sera pas le principal.
Il y a plusieurs facettes totalement différentes du ski qu'on a l'habitude de faire, par exemple en hors-piste, à proximité des stations, où là, on va prendre plus d'engagement en termes de saut, on va sauter des barres rocheuses, on va faire des figures, mais là, ça va pas du tout être le cas.
Les cinq amis vont partir en totale autonomie pour l'ascension, les bivouacs et les éventuels secours. Une vingtaine de jours d'efforts pour une seule descente. Des photos et un film devraient être produits au retour de cette expédition, des documents rares à l'image de cet exploit sportif.
Lewis Hamilton reprend la tête du championnat du monde des pilotes de Formule 1. Il a dominé le Grand Prix d'Espagne devant son coéquipier Bottas. Sixième place pour Gasly, Ogier et Loeb sont deuxième et troisième, eux, au rallye du Chili Auto.
C'était le journal des sports de Fabrice Rigobert. Tout de suite, les petits bateaux sur France Inter, bien sûr. Bonne soirée.